France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le député et le féminicide. Le lundi 19 novembre 2008, la stupeur s'installe sur les bancs de l'Assemblée. Les députés présents apprennent que leur collègue, l'UMP Jean-Marie Demange, vient de mourir. Une minute de silence entame la session de l'après-midi. Hommage rendu à un homme qui pourtant a commis un féminicide. Le député Jean-Marie Demange vient de tuer son ex-maîtresse Karine Albert et de retourner l'arme contre lui. Dans la presse ou chez le procureur, on évoque la possibilité d'un drame passionnel. Le terme « féminicide » n'est pas encore utilisé. Jean-Marie Demange, médecin, élu député en 1986, conseiller départemental, conseiller régional et maire de Thionville, a tout du notable propre sur lui. Et comme on le dit bien trop souvent, dans ces cas-là, qui aurait pu croire ? Or, à se focaliser sur cette question et sur la figure du député, on en oublie la victime, Karine Albert. Et c'est bien le problème, aux confins de l'hégémonie culturelle et du patriarcat. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Loubière, autrice de l'ouvrage « Une minute de silence » publié aux éditions Darkside et qui revient sur cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Marjolaine Corr. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
C'est l'histoire d'un notable, comme il en existe tant dans toutes les villes de France. Jean-Marie Demange est le fils d'un gaulliste qui a chèrement gagné ses galons de résistant pendant la guerre. Ce père, infirmier militaire de profession, est aussi le maire de Mézières-lès-Metz, une commune de 11 000 habitants située entre Thionville et Metz. Quand on est le fils de Maurice Demange, il faut être à la hauteur. Alors, Jean-Marie, le cadet d'une fratrie de trois garçons, s'engage dans de brillantes études. Comme son père, il choisit le domaine de la santé. Il sera médecin angiologue, spécialiste de la circulation du sang. On le décrit comme un praticien sans les manières bourgeoises. Et comme son père, il se pique de politique et rejoint les gaullistes. Fervent chiracien, il a toujours connu et fréquenté les caciques locaux. Ces derniers lui proposent d'abord de faire ses armes au cantonal pour rejoindre le conseil général de Moselle. Bien, mais pour cela, il faut qu'il arrache un canton traditionnellement emporté par la gauche. Eh bien, il y parvient. Et dans la foulée, il profite de la proportionnelle de 1986 pour décrocher un mandat de député. Mais le jeune loup ne s'arrête pas là. Il réussit à s'imposer au sein de la section locale et à décrocher le poste de président du RPR de Moselle, qui se déchire dans des guerres intestines.
Le RPR Moselle a un nouveau président, la personne du député de Thionville, Jean-Marie Demange. Il succède ainsi à Jean-Éric Bouche, qui avait assuré l'intérim après la démission de Pierre Messmer au lendemain de l'échec de celui-ci aux législatives de 88.
Alors c'est un président d'Union que vous présentez ?
Oui, c'est un président d'Union que je me présente et je crois que mon élection est là pour prouver que même certaines personnes qui peut-être pouvaient avoir pouvaient se poser quelques griefs se sont portés sur mon nom. Alors je peux que me dire que j'étais un candidat d'Union.
La parole du jeune député est encore hésitante, mais la volonté ne fait aucun doute. L'homme a déjà un pied bien ancré dans la politique locale. Mais il lui manque l'essentiel, une mairie. Alors Jean-Marie Demange jette son dévolu sur Thionville, une commune aux mains des communistes depuis presque 20 ans. Grâce à ses mandats et à son cabinet médical implanté dans la ville, il sillonne les quartiers, prend le temps, presque 10 ans pour s'implanter et se faire connaître. En souriant, il dit à son frère « J'ai 30 000 paires de jambes dans mon fichier de patients, c'est mon électorat. » Et en 1995, la victoire arrive. Il rafle le trophée qui lui manquait, une mairie. Et pas n'importe laquelle, l'un des chefs-lieux de canton de la Moselle. Encore une fois, il surpasse son père quand ce dernier justement décroche. À ces mêmes élections, lui perd son mandat.
À Mézières-lès-Metz, c'est le socialiste Gérard Terrier qui enlève la mairie au RPR. Maurice Demange, maire de Mézières depuis 30 ans, a été assez largement battu hier, victime certainement de l'usure du pouvoir et de la présence au deuxième tour de Joseph Léda, son ancien adjoint à la tête d'une liste d'hiver droite.
La victoire du premier est un peu ternie par l'échec du second, comme un passage de flambeau entre le père et le fils, mais imposé. Il n'empêche, Jean-Marie Demange, lui, a réussi le grand chelem. Présent à tous les échelons de la vie politique locale, il surpasse son père en tout point, comme s'il avait quelque chose à lui prouver. Une fois au manège de Thionville, le député maire ne s'arrête plus. Il engage des travaux en profondeur pour transformer cette ville endormie qu'il réveille. La crise de la sidérurgie l'a frappé de plein fouet. Les habitants ont souffert de toutes les restructurations qui ont touché des entreprises locales. Mais à 20 km de là, avec ses hauts salaires, le Luxembourg attire une autre catégorie de travailleurs. Des frontaliers viennent revitaliser la commune. Et Jean-Marie Demange est prêt à leur offrir un centre-ville flambant neuf. Le maire bâtisseur fait voter la piétonnisation du centre, qu'il confie à l'architecte Villemotte. Il fait colorer les façades pour égayer sa cité, construit une école de musique, une piscine et surtout, il fait planter des arbres, partout. Non pas par souci environnemental, mais parce qu'il les adore, les arbres. Et il veut que chaque habitant de sa commune aperçoive un arbre de sa fenêtre. Et les habitants semblent en redemander. Aux élections municipales suivantes, Demange rafle la victoire dès le premier tour.
Nous avons vraiment eu un résultat basé sur un bilan, mais également des projets, et pas sur de la polémique.
Plus de 60%, c'était inespéré.
Et c'est inespéré parce que je pense qu'on va être entre 62-63%. Cela veut dire qu'il devrait y avoir 35 sièges tirés. C'est extraordinaire. Je crois que je n'ai pas souvent ce qu'à Thionville ce soit vu depuis des décennies.
Pour ce second mandat, il fait aménager un petit duplex dans une aile de la mairie, située dans un ancien couvent au mur massif. Et ce, même s'il conserve sa villa de Mézières-les-Metz, où il vit avec sa femme, Christiane, et son fils, Philippe. Il veut poursuivre dans la dynamique du premier mandat, tout dédié à sa ville, avec un entrain décuplé depuis qu'il se s'est adoubé par les Thionvillois. Face à lui, un opposant s'est installé dans son paysage. Il s'agit du socialiste Bertrand Merz, avocat de profession. Depuis quelques années, ce dernier l'affronte à toutes les élections et ne lâche rien, malgré son éternelle seconde place. Lors de chaque conseil municipal, les journalistes de la presse locale relatent par le menu les passes d'armes entre les deux hommes, les manières brusques de Demange, qui coupe le micro en pleine intervention de Merz, n'hésitant pas à se montrer grossier et même méprisant à l'égard de l'opposition. Comme dans bien les mairies, en France d'ailleurs. À vrai dire, l'édile supporte de moins en moins la contradiction. Dans les couloirs de la mairie, on le surnomme même « telle est ma volonté ». Et on murmure que la carte de Thionville, accrochée au-dessus de son bureau, le plonge parfois dans de longues réflexions. L'homme cherche la place ou la rue qui, après son départ, pourrait porter son nom. Un an plus tard, en 2002, Jean-Marie Demange est réélu député dans un fauteuil.
Dans la 9e circonscription, à Thionville-Est, réélection sans surprise de Jean-Marie Demange, avec plus de 60% des voix exprimées, il attaque son 5e mandat.
Est-ce que vous n'êtes pas épuisé par toutes ces années de mandat ?
Épuisé ? Est-ce que j'ai été épuisé ? Oh, mais je suis parti au moins pour 5 ans.
Désormais, la politique, c'est sa vie. Jean-Marie Demange confie sa patientèle à son frère, également géologue. Il raccroche la blouse et le stéthoscope. Ses journées se déroulent entre la mairie de Thionville et ses allées et venues à la capitale, où il siège toujours en tant que député, fidèle de Jacques Chirac et soutien de Nicolas Sarkozy à l'approche de la présidentielle de 2007. Avec la victoire du chef de son parti, viendra la sienne.
Deux réélections donc pour des députés UMP, Denis Jacquat et Jean-Marie Demange. Jean-Marie Demange dans la circonscription de Thionville-Est et Denis Jacquat dans celle de Metz 2. Le point commun entre vous deux, messieurs, c'est que vous êtes élus depuis 1986. C'est donc à chacun votre 6e élection à un mandat de député en Moselle. L'un comme l'autre, vous ne craignez pas l'usure du pouvoir, monsieur Demange ?
Ben écoutez, il faut croire que non. Tu sais, moi, c'est le dynamisme. Chacun sait que c'est une de mes qualités. L'énergie aussi, j'en déborde. Et puis, avant les dossiers, ben, je pense bien les connaître. Puis les électeurs s'y sont pas trompés.
Installé depuis 20 ans dans son fief, Jean-Marie Demange a gagné en confiance et perdu en humilité. Un grand classique. Il faut dire que tout lui réussit depuis tant d'années. Il estime son bilan excellent, même si certaines entreprises à qui il avait fait des bons d'or pour qu'elles s'installent à Thionville lui ont fait faux bon. Quant aux agents municipaux, ils ont peu à peu renoncé à le contrarier, juste pour éviter ses coups de colère. il ne reste plus grand monde pour lui dire s'il fait fausse route ou même pour l'enjoindre à mieux préparer sa campagne aux élections municipales de 2008, par exemple. Et puis, au fil des années, il a blessé d'anciens amis qui se sont retournés contre lui. Comme son secrétaire général à la mairie, Patrick Luxembourgeur, exaspéré par son agressivité. Aux dernières législatives, il a fini par se présenter contre lui, provoquant la rage de Demange. Cet épisode aurait dû l'alerter, mais non. Demange ne retient que sa victoire franche. Il ne prend pas la peine de mener une véritable campagne pour sa mairie, persuadé de l'emporter une troisième fois haut la main. « Avec tout ce que j'ai fait pour la ville, les Thionvillois voteront pour moi », lance-t-il à son premier adjoint. Mais quand il se réveille, il est trop tard. Bertrand Merz est à ses trousses. Il ne manquait à Demange que quelques dizaines de voix, pas même 50, pour décrocher la mairie dès le premier tour. Résultat, 49,68% des scrutins. Quelle rage! Alors, Demange passe la seconde, donne tout pour convaincre les électeurs de lui renouveler leur confiance. Mais au second tour, ça ne passe pas.
3-0, victoire surprise mais sans appel. Hier, la gauche thionvilloise a réussi le grand chelem en remportant les deux cantons renouvelables et la mairie. Après deux échecs en 95 et 2001, Bertrand Merz est parvenu à ses fins.
C'est vraiment la victoire de l'espoir dans des quartiers, dans des catégories de la population qu'il avait perdu et auxquelles on a su redonner cet espoir. Le changement est possible à Thionville et les Thionvillois vont le voir rapidement et concrètement.
Avec 51,5% des suffrages, Bertrand Merz met un terme à l'ère Demange. Au premier tour, il n'avait pourtant manqué que 30 voix au maire sortant pour être réélu.
J'ai porté Thionville. Je lui ai donné un nouveau visage. Je lui ai donné une dynamique avec une équipe, avec deux équipes consécutives. C'est une page qui se tourne, voilà.
C'est son premier véritable échec. Sur le coup, Jean-Marie Demange semble beau joueur. Après tout, il lui reste un mandat de député, tout n'est pas perdu. Mais Thionville, sa ville, c'était le cœur de son action. Il l'a toujours dit, s'il ne devait garder qu'un mandat, ce serait celui de maire. Cet échec est donc un déchirement. De colère, il fait détruire tous les dossiers du cabinet. 12 ans de travail sont passés à la broyeuse. Le nouveau maire socialiste trouve un bureau et des placards vides. Les dossiers d'administration, comme les dossiers sur les sujets sensibles à suivre, n'existent plus. Même les tampons, les stylos, les trombones ont disparu, table rase. Le jour de la passation des pouvoirs, Jean-Marie Demange est loin de Thionville. C'est au-dessus de ses forces. Il confie la tâche à son adjointe. Les semaines qui suivent seront rudes. Quand il retrouve sa collègue députée Marie-Jo Zimmermann à Paris, il ne lui cache pas. « Je suis au fond du trou », lui dit-il. Et voilà qu'un nouvel affront arrive. Le nouveau maire, Bertrand Merz, le convoque au conseil municipal pour qu'il s'explique sur les comptes de la ville. L'audit qu'il a commandé dévoile une situation financière critique. Ce sera la seule fois où Demange assistera au conseil municipal en tant que conseiller de l'opposition. Devant cette assemblée qui ne lui est plus acquise mécaniquement, il justifie sa gestion des finances en lisant un texte qui semble avoir été écrit par un autre. Puis il se lève et quitte la salle avant la fin du conseil. Quelques jours plus tard, il se confie à l'un de ses proches. « J'ai envie de me suicider ». Sa femme, Christiane, demande aux anciens collaborateurs de passer le voir pour lui remonter le moral. Le 11 novembre, le nouveau maire de Thionville, qui a eu vent de l'état dépressif dans lequel se trouve son prédécesseur, lui propose de venir déposer avec lui la traditionnelle gerbe au monument aux morts. Bertrand Merz voit alors arriver un homme seul. Après la cérémonie, Demange se confie auprès de son adversaire. « Je suis foutu », lui dit-il. Quand il se quitte, Merz se rend compte que personne n'a attendu l'ancien maire, qui remonte dans sa voiture, seul. 6 jours plus tard, les habitants de la ville sont glacés par cette nouvelle.
C'est un terrible drame qui s'est joué en fin de matinée au deuxième étage de cette maison thionvilloise. C'est ici que l'ancien maire UMP de la ville, Jean-Marie Demange, a tué une femme de 43 ans dont il était très proche avant de mettre fin à ses jours. La scène s'est déroulée sur le balcon de l'appartement de la jeune femme, sous le regard horrifié et impuissant de cette voisine.
Quitte, elle avait beau dire « laisse-moi, laisse-moi », elle était couchée à terre et Il n'y avait rien à faire, il continuait à la frapper et puis il lui a tiré un coup de revolver et puis après il s'est tué aussi.
Un fait divers tragique qui a causé un énorme choc. Jean-Marie Demange était député de la Moselle depuis plus de 20 ans. Il avait perdu la mairie de Thionville aux dernières élections municipales. La police judiciaire de Metz va à présent enquêter sur les causes de cette tragédie. Le crime passionnel n'est pas exclu. On sait également que Jean-Marie Demange était psychologiquement fragile depuis sa défaite aux municipales en mars dernier.
Finalement, ce n'est pas seulement le suicide qui frappe tout le monde, mais un crime bien plus sordide qui marque une facette de leur ancien maire qu'ils n'auraient jamais soupçonné.
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Jean-Marie Demange, le député et le féminicide.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Un crime passionnel. Voilà comment, en 2008, les journaux présentent le féminicide de Karine Albert. Cette femme de 43 ans, qui a été la maîtresse de Jean-Marie Demange plusieurs années, vient de mourir d'une balle dans le flanc et d'une autre dans la tête par ce même homme qui a ensuite retourné l'arme contre lui. « ce lundi 17 novembre, c'est la stupéfaction générale en Moselle, comme à Paris sur les bancs de l'Assemblée. Alors que le crime, doublé d'un suicide, s'est déroulé en fin de matinée, l'hémicycle est clairsemé. Au retour du déjeuner, la présidente de séance, la socialiste Danielle Hoffmann-Rispal, s'apprête à reprendre les débats autour du projet de loi de finances. Mais l'un de ses collaborateurs lui fait parvenir une courte note. Trois lignes qui lui annoncent le décès de Jean-Marie Demange et la mort d'une autre personne. Alors, comme le veut le protocole lorsqu'un parlementaire décède, elle décrète une minute de silence.
La séance est ouverte. J'ai la tristesse de faire part du décès de notre collègue Jean-Marie Demange, député de la 9e circonscription de Moselle. Et j'invite l'Assemblée à observer une minute de silence.
Rien sur Karine Albert, ni sur le fait qu'elle ait été tuée par Demange. Rien. Car Danielle Hoffmann-Rispal ne le sait pas. Non, personne n'a cru bon de l'avertir de la situation dans son intégralité, ni du côté des collaborateurs qui lui envoient la note, ni de la part de ses collègues de l'Assemblée. Et ce, alors même que parmi les parlementaires présents, certains ont déjà réagi au drame dans les médias. Dans la presse, justement, on évoque le geste de désespoir de Jean-Marie Demange, ou un drame de la passion, ou encore, et toujours, un crime passionnel. Le registre reste le même, celui de l'homme blessé, torturé par un amour qui n'est plus réciproque. Mais plus les jours passent, plus les articles osent enfin aborder une face plus sombre du député, car l'histoire de cette vie notable peut être racontée autrement. Alors reprenons. Jean-Marie Demange, le médecin, le politique, qui gagne tous les mandats, qui se décrit débordant d'énergie, avait quelque chose à prouver. À son père, d'abord, on l'a dit, ce résistant gaulliste à la main leste, toujours plus prompt à gifler qu'à encourager ses fils. Demange a tout fait pour prouver qu'il était à la hauteur. Ça, c'est pour la genèse. Mais sa vie ne se résume pas à des victoires aux élections, jusqu'à la chute. Elle est aussi jonchée de drames humains. Notamment à la maison, où sa femme, Christiane, et son fils, Philippe, sont des sources de soucis constants. Patrick Lussembourgeois, l'ancien ami, le secrétaire général qui a fini par se présenter face à Jean-Marie Demange aux législatives de 2007, le raconte à la journaliste Sophie Loubière.
Philippe, son fils, était une source de tourments et d'inquiétudes. C'est une histoire tellement triste. Sa femme, Christiane, est une personne qui vivait avec un trouble bipolaire. J'ai assisté à beaucoup de choses. Je m'entendais très bien avec elle. Il y avait chez Jean-Marie Demange une énorme souffrance à son égard. Je peux le dire, sachant que c'était inconcevable pour lui de divorcer. Il s'y refusait, notamment parce que son épouse était malade et potentiellement en situation de grande fragilité. La problématique de Christiane est un phénomène qui allait en s'amplifiant, avec des effets destructeurs profonds sur la nature de la relation avec son mari.
Christiane et Jean-Marie, depuis des années, ils font chambre à part. Parfois, au milieu de la nuit, il appelle son ami Pierre Cuny, qui est aujourd'hui maire de Thionville, pour qu'il l'aide à la conduire à l'hôpital. Les surdoses de médicaments sont fréquentes chez elle. Christiane est quasiment invisible dans la vie publique du maire. Elle se contente d'apparitions aux vœux, en début d'année, ou à un salon de la gastronomie qu'elle affectionne. Quant à Philippe, le fils, les déboires, là aussi, sont nombreux. Adolescent, il tombe dans la drogue. Le père finit par le mettre à la porte. Recueilli par le grand-père, il remonte un peu la pente grâce au travail que ce dernier lui fournit auprès des services techniques de sa commune, où il est encore maire, rappelons-le. Le garçon tient quelques mois, puis rechute. Alors le père, Jean-Marie Demange, tente de prendre le relais. Il l'embauche en tant que collaborateur parlementaire, un emploi quasi fictif. Il lui confie bien quelques tâches, mais le garçon n'est pas à la hauteur. Incapable de se gérer, le jeune adulte finit par être placé sous la tutelle de son père. Les Demange lui aménagent la petite maison située au fond de leur jardin et depuis, le fils vit entouré de ses huskies. Et on dit qu'il accueille les visiteurs vêtus comme un indien d'Amérique, leur proposant de fumer le calumet avant de rentrer dans la maison. Dans cette famille, chacun porte sa part d'ombre. Mais Jean-Marie Demange n'a pas le temps de s'apesantir sur ses déboires familiaux. La vie publique le happe. Bien sûr, lui-même, avec ses accès de colère de plus en plus nombreux, n'est pas exempt de défauts. Mais ses réussites et les nombreux chantiers mis en branle à Thionville effacent le reste. C'est à peine si dans les journaux on évoque les facettes plus sombres de sa personnalité, comme dans ce portrait dressé par France 3 Grand Est.
Autoritaire et autocrate pour ses opposants, humaniste et gestionnaire de qualité pour ses amis, une chose est sûre, le député-maire RPR de Thionville ne laisse pas indifférent. À la tête de la seconde ville du département de la Moselle, il entreprend de grandes transformations urbanistiques afin de changer l'image de marque de Thionville, tout en maîtrisant la pression fiscale. Objectif avoué, permettre un véritable développement économique du bassin thionvillois. À l'aube du troisième millénaire, Jean-Marie Demange continue de partager son temps entre Paris, un jour et demi en moyenne, réservé au dossier, et Thionville, où il reste très présent sur le terrain, à moins d'un an des municipales.
S'il reste modéré sur son comportement, les journalistes connaissent pourtant bien la facette colorique du personnage. Elle apparaît lors de chaque conseil municipal. Elle se voit comme le nez au milieu de la figure. Et même si des rumeurs parviennent jusqu'à eux, notamment à propos des dégâts provoqués sur sa voiture de fonction à plusieurs reprises, et du fait d'une prise exacerbée de médicaments, il leur est difficile d'aller sur ce terrain sans risquer le procès en diffamation. Alors ils observent. Et aussi remarquent cette jolie femme brune qui se trouve là de plus en plus souvent à ses côtés. Elle s'appelle Karine Albert. Fraîchement divorcée, elle est restauratrice à Thionville. Lorsque Jean-Marie Demange la rencontre, il a beau avoir 60 ans et elle 37. Il ne la lâche plus. Transi d'amour, disent ses amis. On est en 2002. Son arrivée dans sa vie lui fait un bien fou. Très vite, les deux ne se cachent plus. Il l'emmène même à la garden party de l'Élysée. Cette double vie s'installe dans son quotidien avec un naturel déconcertant. Même sa femme, Christiane, est rapidement au fait de la situation, mais elle préfère fermer les yeux. Demange loue un appartement pour Karine Albert. Elle s'y installe avec ses deux enfants issus de sa précédente union. Ces trois-là, c'est un peu la famille qu'il n'est pas parvenu à construire avec Christiane et Philippe. Il n'est pas rare de voir le député-maire aller récupérer les enfants à la sortie de l'école, les enfants de Karine. Il noue une véritable relation avec eux. Et même avec la famille de Karine, qui l'invite pour des parties de pêche autour de son étang. Pour autant, il lui semble impossible de quitter Christiane et Philippe. Les deux sont si fragiles. Karine comprendra, et puis elle a d'autres soucis peut-être. Les affaires sont difficiles, elle peine à sortir la tête de l'eau avec le restaurant. Alors là encore, pour l'aider, Jean-Marie Demange l'embauche en tant que collaboratrice. Son travail, d'ailleurs, n'est pas fictif. Elle réalise bien des tâches de secrétariat, mais quand même, ça fait tâche. Son opposant à la mairie, Bertrand Merz, avance la situation. Alors, il décide de confronter l'élu lors d'un conseil municipal, comme il le raconte, là encore, à Sophie Loubière.
Quand j'étais dans l'opposition à la fin de son mandat, en 2007, j'ai eu vent du fait qu'il avait salarié sa maîtresse en tant qu'assistante parlementaire. Je lui fais savoir que je vais l'interroger sur ce point au prochain conseil municipal. Le conseil a lieu, il préside, on avance dans le débat, puis sentant que je vais venir sur le sujet, Demange se retire et demande à son adjointe de poursuivre. Il disparaît derrière le rideau du fond de la salle. À cette époque, je me rendais bien compte que cet homme était perturbé psychiquement, mais je le pensais solide. Alors je viens tout de même sur le point que je voulais aborder et soudain, Demange surgit de derrière le rideau, reprend la présidence de l'Assemblée municipale, vocifère, puis repart. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de sa grande fragilité.
Demange ferait tout pour Karine. Elle est sa bouée, sa respiration dans cette vie frénétique. Elle est de toutes les victoires. Elle sera aussi son épaule, sa bouée de sauvetage lors de son échec, cette fois, au municipal de 2008. C'est bien sûr elle qu'il espère se reposer. Mais ces crises dépressives et de colère, de plus en plus nombreuses depuis quelque temps, rongent sa compagne. En plus, ce que le député ne sait pas, c'est qu'il a lui-même jeté dans les bras de Karine l'homme avec qui elle rêve désormais de vivre. Quand sa femme Christiane faisait une apparition aux manifestations, Demange avait proposé à l'une de ses connaissances, un entrepreneur du coin, de jouer l'ami de Karine pour éviter les questions gênantes. Le problème, c'est que les deux ont pris leur rôle très au sérieux, trop au sérieux, et sont tombés amoureux. Quelques mois après les municipales, Karine craque. Elle veut quitter l'appartement et s'installer avec son nouveau compagnon. pile au moment où Demange se disait qu'au moins, il pouvait compter sur elle et que, peut-être, il était temps de divorcer pour s'installer pleinement avec elle. Le coup est rude, très rude. Du reste, Demange ne parvient pas à la laisser partir comme ça. Il l'appelle, souvent, très souvent, tente quelques manœuvres pour la reconquérir, mais rien n'y fait. En novembre, il semble s'être résigné. Il est temps de résilier le bail. Le dimanche 16 novembre, il lui envoie un SMS. Il souhaite passer la voir une dernière fois. Elle accepte. Le lendemain matin, Jean-Marie Demange prend la route. Il appelle sa femme et son fils, leur fait des déclarations d'affection comme il n'en avait jamais fait. Alors Christiane s'inquiète. Elle appelle un ami et elle lui glisse. « Je crois qu'il va faire une connerie. » Demange monte à l'étage, car il lui ouvre. Ils discutent une petite demi-heure. Vers 11h45, des voisins entendent des cris. À leur fenêtre, ils découvrent une femme sur son balcon, agrippée par un homme qui veut la faire rentrer. Au moins, 4 personnes appellent les secours dans le voisinage. Mais l'homme en question sort une arme, plaque la femme au sol et tire à bout portant. Vacarme d'une balle tirée. Demange se relève, recule à l'intérieur, nouveau vacarme, puis le silence. Sirène de police, scène de crime, reporter dépêché sur place et premier témoignage recueilli dans l'entourage de Demange, c'est l'incrédulité.
Jean-Marie, c'était à la fois ce côté exubérant, une vraie pile Duracell, qui d'une énergie infatigable, d'un enthousiasme communicatif, mais c'était aussi, et on l'imaginait moins, un hyper émotif, un hypersensible avec ses fragilités. Et depuis son échec municipal, on voyait même la perte d'intensité de son regard.
J'avais été un peu rassuré quand j'avais découvert qu'il était retourné au conseil municipal de Thionville. J'avais comme dans l'idée qu'il était peut-être en train de surmonter ce qui devait être une profonde dépression. J'avais l'impression qu'il avait, grâce à sa présence au conseil municipal, retrouvé le goût de la vie, entre guillemets.
Karine Albert, mère de 2 adolescents de 13 et 15 ans, n'est plus. Dans les pages des journaux, elle apparaît à peine comme un dommage collatéral. Les colonnes sont remplies de portraits de Jean-Marie Demange. De son ascension, de sa folie, de sa consommation excessive d'anxiolytiques, de sédatifs. Mais il n'y avait pas de surdosage, affirme le procureur. Non, juste un orgueil blessé qui a conduit à ce que l'on n'appelait pas encore un féminicide. Mais cette histoire a une suite. Car l'homme qui refusait de divorcer, jugeant sa femme trop faible, la livre par ce geste en pâture aux âmes belliqueuses. Depuis la mort de son mari, dans sa boîte aux lettres, Christiane Demange découvre régulièrement des lettres d'insultes qui lui sont destinées. Malgré cette haine tenace qu'elle ne comprend pas, ses amis croient l'avoir remonté la pente. Mais 6 mois plus tard, son fils le retrouve gisant au pied des escaliers. Les analyses toxicologiques révèlent un cocktail létal de médicaments et d'alcool. Une deuxième femme est morte et celle-ci n'aura eu, elle aussi, que quelques lignes dans les journaux.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le dossier Demange, le député, le féminicide. Notre invité, Sophie Loubière. Bonjour.
Bonjour, Fabrice.
Alors, vous avez écrit ce livre que vous avez intitulé « Une minute de silence » avec ce sous-titre « D'après une histoire vraie », celle qu'on vient de raconter. Je rappelle également que vous avez été une voix de France Inter, et on y reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette affaire? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y plonger au point d'écrire un livre? Parce qu'écrire un livre sur un sujet, c'est une immersion totale et longue.
C'est un danger aussi, on se met en danger. Ah oui. Et c'est surtout quand on aborde des sujets comme le féminicide. En tant que femme, évidemment, je me sens concernée, puisque je me suis, à un moment dans ma vie de femme, retrouvée dans une situation qui aurait pu basculer, qui aurait pu me coûter la vie. Certains hommes sont emportés parfois et par toute une histoire, et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est que c'est pas seulement une histoire de jalousie, de d'amour propre, d'orgueil, c'est aussi toute une histoire familiale, c'est tout un héritage, notamment ce fameux héritage patriarcal, cette prison à l'intérieur de laquelle on enferme les petits garçons dès l'enfance et à qui on inculque des valeurs, des idées comme par exemple, eh bien ta femme appartient, ou tu dois être le plus fort, voilà, tu ne peux pas être remplacé par un autre.
Évidemment, si votre livre s'appelle Une minute de silence, je pense que ça fait, j'imagine que ça fait référence à cette fameuse minute de silence observée à l'Assemblée nationale quand on apprend le suicide de Demange. Et ça, ça dit tout. D'abord, ça dit à quel point on oublie la victime. Et d'autant plus que Demange est un député, un élu de la nation, donc de l'élite, ça c'est l'hégémonie culturelle hein, de Gérard Gramsci. Et puis c'est aussi le fait qu'on ne reconnaisse pas ce crime et qu'on le qualifie de crime passionnel. Alors on sait qu'un crime passionnel, avant c'était 8 ans, pas plus. On disait, oh, c'est une histoire de cœur, hein, y a rien de crapuleux là-dedans. C'est le problème. Est-ce que c'est le premier fémicide d'ailleurs dans la vie politique? Est-ce que c'est ça?
Oui, ils sont très rares, ces hommes qui tuent leur compagne. Et en France, en tout cas, c'est le seul qu'on connaisse aujourd'hui. J'espère que ce sera le seul, ça restera le seul. En revanche, des députés qui se suicident, ou des hommes politiques qui se suicident, on en connaît. On en a eu
bien
un
sûr.
Très récemment, au mois de juin. Pierre Bérégovoy aussi. Il faut savoir que l'exposition des hommes politiques dans cette vie public et puis cette ivresse du pouvoir, cette ivresse de la capacité d'agir comme ça sur toute une population, sur toute une ville, toute une région. Et bien évidemment, pour un petit homme comme Jean-Marie Demange, qui mesurait 1m62, 63, suivant les journaux, ce petit homme qui était un bébé prématuré, né pendant la guerre, à qui on ne prédisait pas forcément de survivre, que sa maman mettait dans une petite boîte à chaussures avec du coton, tellement c'était un petit bébé. C'est un homme qui va avoir une enfance très difficile, il est bègue, il a un problème de vision, et il va se construire comme ça, complètement de guingois, au milieu d'une famille, puisqu'il y a 3 garçons, et c'est l'enfant du milieu, c'est toujours la place la plus difficile à prendre et à conserver. C'est lui qui prend les coups pour l'aîné, parce qu'il aime profondément son frère aîné. Et puis, c'est un petit garçon rêveur, en fait, puisque lui, il voudrait être instituteur et pas médecin. Mais effectivement, le père va très vite influer sur et le présent et l'avenir de Jean-Marie Demange et lui imposer une carrière dans laquelle, finalement, il va s'épanouir.
Alors, Karine Albert est la victime de cette histoire. Elle est invisibilisée, hein, comme souvent dans ces féminicides à cette époque-là. Si vous deviez la décrire telle qu'elle vous a été présentée par les témoins que vous avez rencontrés, que diriez-vous d'elle?
C'était une femme très très sensuelle, très forte, qui avait la tête sur les épaules. Une femme qui venait de divorcer et qui avait décidé de conserver son activité de restauratrice, qui menait une équipe avec beaucoup de brio et qui était très généreuse avec son entourage. C'était une mère de famille très maman poule, qui était aussi aidée par sa propre mère, qui restait très présente dans sa vie. C'est une femme solaire et qui a beaucoup apporté à Jean-Marie Demange, qui a apporté toute cette lumière je dirais, cette légèreté qui lui manquait beaucoup. L'un et l'autre étaient très complémentaires. C'est une véritable histoire d'amour qui s'est nouée entre eux. Ça a duré 6 ans, donc c'est pas la maîtresse à haut talon, la blonde de service, comme on l'imaginerait, derrière un homme politique. Non, c'était vraiment une histoire profonde. Et la séparation n'était pas facile, et pour elle et pour lui. Elle a pris son temps pour le quitter. Elle y a été doucement. Ils ont encore quelques temps avant le crime déjeuné ensemble. On les voyait régulièrement. La relation était apaisée. Et c'est ce qui est le plus surprenant dans cette affaire, et c'est ce qui m'a beaucoup tourmentée quand j'ai écrit ce livre, c'est de comprendre pourquoi soudain, tout a basculé dans cet appartement.
Est-ce que la réponse, c'est qu'il fait partie de ces hommes, et c'est culturel, hein, qui considèrent que dès lors qu'ils ont une relation avec une femme, cette femme leur appartient, qu'elle n'a pas le droit de partir. C'est ça?
Non.
Ah, ça aurait pu être ça, mais vous avez...
Voilà. Non,
vous m'éclairez en disant non.
Oui, je vous éclaire. c'est probablement ce qui fait que je me suis intéressée tout de suite à cette affaire. Je trouvais que les choses étaient trop évidentes, les leviers trop facilement
comme celui que je viens de vous proposer, c'est ça?
Voilà, d'accord. C'est-à-dire que on va se dire, bah oui, c'est ça, c'est un homme politique qui va vouloir, comme il n'a pas réussi à se venger sur les Thionvillois qui ne l'ont pas élu, eh bien il va se venger sur cette femme. Ça a été ma première pensée, évidemment. Mmh. J'ai commencé à écrire ce livre comme ça. Et puis j'ai découvert sa vie. Et puis j'ai découvert sa problématique. J'ai découvert que cet homme s'automédiquait. Et que dans les derniers moments de sa vie, eh bien, il était sous un traitement médical lourd. Et que ce traitement médical lourd, si on l'arrête, peut avoir des effets dramatiques. Y compris causer ce qu'on appelle un raptus. C'est-à-dire, soudain, on n'est plus du tout conscient de ce qu'on fait. Et on peut en atteindre à la vie d'autrui ou à soi-même. Donc ça, c'est ce que je vais découvrir dans ce livre. Je vais découvrir qu'effectivement, le procureur n'a pas posé les bonnes questions, n'a pas regarder correctement le rapport d'autopsie, plutôt que de dire, voilà, il n'y avait pas ça, il y avait ça dans son sang, on aurait dû aussi dire, mais qu'est-ce qui manquait dans cette analyse? C'est tous ces éléments-là que j'ai pu remonter petit à petit pour comprendre que ce jour-là, quand Jean-Marie Demange se rend à l'appartement de Karine Albert, ce n'est pas pour la tuer.
C'est ce que vous aurez pu dire son avocat, ça? Parce que vous êtes en train de le dégager de ses responsabilités en disant ça.
Non, je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé dans l'appartement. Ouais. Ça n'excuse en rien Jean-Marie Demange. Il est coupable d'un crime épouvantable. Simplement, c'est les circonstances qui m'intéressent. Mmh. Savoir pourquoi cet homme a basculé. Qu'est-ce qui l'a fait basculer? Il est quand même resté une demi-heure avec Karine Albert. Ils ont discuté, ils ont pris un verre. Et elle a même passé deux coups de fil à son amant. Vous en connaissez beaucoup, des histoires de féminicides dans lesquelles le tueur, le futur assassin, le mis en cause, va laisser son ex-femme ou la femme qui va le quitter appeler son amant deux fois de suite. Donc ça, c'est extrêmement intriguant et ça n'a vraiment pas tilté dans la tête du procureur ni dans l'enquête de police à l'époque. Et là est la clé de cette histoire. Et la clé de cette histoire, elle est liée à tous ces éléments, c'est-à-dire la masculinité toxique, le parcours politique tel que vous l'avez brillamment reconstitué, et cette problématique de santé mentale qui est au cœur de tous les féminicides aujourd'hui commis dans le monde. Le problème principal, c'est la santé mentale du mis en cause.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Sophie Loubière, vos derniers mots étaient « Demange n'est pas venu pour la tuer », donc Karine Albert. Mm-hmm. Mais pourquoi est-il venu avec une arme?
Alors cette arme, déjà, il faut savoir qu'il l'avait sur lui depuis plusieurs jours, qu'elle ne le quittait plus. Et cette arme, vraisemblablement, il l'avait prise chez son père, puisqu'il s'agit d'une arme de guerre extrêmement... Enfin, on l'a décrit, la police l'a décrit comme extrêmement rouillée. C'est en plus le modèle qui a été utilisé par les résistants pendant la guerre. Donc c'est probablement chez son père qu'il a pris cette arme, et cette arme ne le quittait plus, puisque Jean-Marie Demange voulait mettre fin à ses jours. Quand il est allé voir Karine Albert, ils étaient censés signer des papiers qui allait permettre à Karine d'avoir la pleine jouissance de cet appartement.
Ça, c'est la raison pour laquelle il y va.
Il y va, oui, oui. Et ils étaient aussi censés rencontrer une troisième personne dans cet appartement. Jean-Marie Demange était venu dans cet appartement pour tuer cette personne et se suicider après. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée après avoir travaillé sur les témoignages des uns et des autres et recoupé les éléments que j'ai eus. Et ce qui s'est passé n'était pas prévu. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, Jean-Marie Demange a, comme on dit vulgairement, complètement perdu pied et pété un câble. Voilà.
Vous avez pu joindre des membres de la famille de Karine Albert, ses proches, peut-être sa fille, je ne sais pas.
J'ai eu contact avec Alexandra après la parution du livre. Et c'était très touchant de parler avec la fille d'échanger avec la fille de Karine Albert, parce que elle m'a remerciée d'avoir écrit ce livre qui est finalement la seule trace de sa maman, qui, comme vous l'avez si justement soulevé, comme toutes les victimes de féminicide, est totalement invisibilisée. Ça a été terrible, imaginez, pour sa mère d'apprendre 7 minutes de silence à l'Assemblée nationale sans mention du nom de sa fille victime. Donc ce livre permet permet à Karine Albert d'exister, à sa fille et à son fils, et bien de comprendre aussi ce qui s'est passé ce jour-là et de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Jean-Marie Demange. Parce que c'est à la fois cruel, évidemment, ce qui est arrivé pour eux. Ils se sont retrouvés d'un instant à l'autre sans maman. On les a renvoyés auprès d'un père qui ne s'occupait plus du tout de ses enfants. Et pour eux, ça a été finalement le calvaire a commencé et ils continuaient après dans les mois qui ont suivi. Ils n'ont pas du tout été aidés psychologiquement. Il n'y a pas eu du tout d'accompagnement. Donc pour Alexandra et pour sa petite fille, puisqu'Alexandra est maman, eh bien ce livre fait sens.
Lors de votre enquête sur le terrain à Thionville, est-ce que vous avez été globalement bien reçue?
J'étais globalement bien reçue. J'ai essuyé quelques claquements de portes, enfin de portes doucement refermées plutôt que claquements, puisque j'y allais avec mon étiquette, mon ancienne étiquette de journaliste et plus que de romancière, puisque mon idée n'était pas de créer une fiction, mais bien de relater la réalité et de me confronter au réel. Et c'est très douloureux. Quand je suis romancière, je suis dans la fiction, je maîtrise tout, je suis en contrôle. Donc je peux... je ne suis pas touchée directement. Là, quand je me suis présentée à l'un des frères de Jean-Marie Demange, c'était très émouvant pour moi. Et évidemment, j'ai accepté la réponse qui m'a été faite de ne pas me recevoir. Mais je me suis rendue sur la tombe de Jean-Marie Demange, j'ai été devant sa maison, j'ai vu ses grands arbres un peu partout dans Thionville. J'ai été très touchée aussi par les témoignages des gens qui ont travaillé avec lui, qui l'ont connu. Des gens qui se taisaient depuis de nombreuses années parce que c'est difficile finalement de dire qu'on aimait quelqu'un qui est un assassin. Quelqu'un qui a tué d'une façon aussi horrible une femme. Donc c'est difficile d'ouvrir une parole qui pourrait être à décharge. Mais encore une fois, Jean-Marie Demange est coupable. Rien ne changera cet état de fait. Ce qui s'est passé dans cette chambre, dans cet appartement, en revanche, aurait pu être évité.
Bien, merci. Hasard de la programmation, je trouve que ça tombe bien. France Inter vient tout juste de mettre en podcast et en replay les 100 épisodes du feuilleton que vous avez coécrit en 1980. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Coécrit en 1998 avec l'auteur de BD Didier Savard. Ça s'appelle Le secret du coffre rouge. Oh, on a 20 secondes pour en dire deux mots.
Ouais, c'était une très belle aventure. 100 épisodes écrits, commandés par Jacques Santamaria, qui était un excellent directeur.
Je me souviens, directeur des programmes.
Directeur de France Inter.
Ah, carrément.
Ah oui, c'était notre directeur. C'est lui qui avait remis la fiction à l'antenne avec le perroquet des Batignolles, etc.
Oui. Voilà, je l'ai croisé quand j'étais bien jeune.
Et aujourd'hui, grand scénariste de télévision.
Absolument, on le salue. Et vous aussi, Sophie Loubière.
Merci beaucoup,
au
Fabrice.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Jean-Marie Demange, le député, le féminicide, d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Télaïra.